Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
It wasn't for the fact that they got your blood in their veins. I would have killed you a long time ago. I would have killed you. Oh, Papa. Papa.
This is Ma Barker and her boys. They do a lot of different things. They love people, all kinds of people. And they have a mother who understands.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale cinéma US et plus particulièrement en fait à travers trois films. On va essayer d'analyser un peu les évolutions du cinéma US entre les années 60, 70 et 80. On va parler de trois films plus particulièrement, à savoir Bloody Mama de Roger Corman qui reprend un peu tout un pan du cinéma US qui démarre à l'après-guerre et puis qui va connaître son apogée avec Bonnie and Clyde, c'est-à-dire les biopics de gangsters. Hein. Et là, on va parler de Bloody Mama de Roger Corman. Bloody Mama qui est disponible chez ESC. Nous allons ensuite parler d'un autre genre qui a connu son heure de gloire dans les années 70-80, plutôt celui-là. Et on va parler d'un film qui est un peu la queue de comète de ce genre, qu'on va appeler le Vigilante Movie. Hein. Et on va parler des Massacreurs de Brooklyn de John Flynn. Les Massacreurs de Brooklyn qui donc sort chez BQHL. Et enfin, on va parler de tout autre chose. C'est un film très particulier, très en phase plutôt avec l'époque d'aujourd'hui, un film très subtil sur le désir féminin, le désir adolescent. Et qui a, c'est pareil, il y a tout un sous-genre du cinéma adolescent aux États-Unis qui s'étend de films dont on a déjà parlé dans l'émission d'ailleurs cette année, hein, comme Ça chauffe au lycée Richmond d'Amy Eckerling, mais qui peut très bien aller jusqu'à Virgin Suicide de Sofia Coppola. Et donc en passant par ce Smooth Talk de Joyce Chopra qui est lui disponible chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mottier ainsi que François Villa pour leur aide sur cette émission. Émission qui, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, bien ainsi que chez tous les bons libraires, bien évidemment. Pour causer cinéma US, je suis aujourd'hui accompagné de mon fidèle acolyte Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, créateur du podcast Écho du Temps, écoutable sur PodCloud, co-animateur de Projection Perdue, mais où allez-vous chercher des titres pareils, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à tous les américanophiles qui nous écoutent.
Mon cher Damien, bah justement, nous allons débuter par parler ma grande figure criminelle. Certaines d'ailleurs sont devenues des grandes figures criminelles grâce au cinéma, en vérité, hein, plus qu'autre chose. Je ne suis pas sûr que cette Bloody Mama, hein, qui est le personnage central de ce biopic signé Roger Corman, je ne suis pas sûr qu'elle serait passée à la postérité sans les films qui ont été adaptés de son histoire. Un film en plus, qui est sorti chez ESC, dans une très belle copie, hein, qui met en place un casting assez extraordinaire, puisqu'on a, on va avoir un tout jeune Robert De Niro, on va avoir Don Stroud, et puis on va voir Shelley Winters, hein, dans le rôle de cette Bloody Mama. Il y a aussi Bruce Dern, enfin, on y reviendra sur le casting de ce film. Qu'est-ce que ça raconte Bloody Mama? C'est l'histoire de Kate Barker. Dès le début du film, on la voit toute jeune, on découvre qu'elle a dû avoir une vie fort sympathique. On est chez les bouseux, hein, voilà. On voit très bien ce que son père veut faire avec elle, hein, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle avec sa fille, qui est une petite fille. Et elle a ses deux frères qui viennent la tenir, donc on pense que son père va la violer. Et là, il y a une ellipse, et on revoit cette gamine qui a 10-11 ans, hein, voilà, qui dit « on l'entend, on entend ses pensées en voix off, hein, qui dit « je ne pensais pas que mes frères m'aideraient à me débarrasser de mon père ». ». On peut, évidemment, pour Corman, c'est l'idée de lancer qu'elle va tout de suite s'apercevoir qu'elle peut avoir une certaine emprise sur les hommes, et on va la retrouver beaucoup plus tard, dans les années 30. Quoi, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du film et tout ça, enfin, il y a un livret, hein, du film qui est écrit par Marc Toulet, qui est assez complet, qui est fourni avec l'édition. C'est une femme qui a quatre enfants. Herman, Lloyd, Arthur et Fred. Et puis, il y a un de ces gamins, celui qui est campé par Don Stroud, qui est le plus violent, en fait, hein, de la bande. Il y en a qui sont plus effacés. Il y en a un qui est toxicomane. Robert De Niro est un toxicomane. En fait, ils ont l'air enfantins. La première scène est assez dérangeante, puisqu'elle fait la toilette à ses enfants, sauf que ses enfants ont entre 20 et 25 ans, quoi, voilà. Donc c'est assez dérangeant. Et puis c'est Shelley Winters, hein, Mama Barker, donc, qui est, elle, un physique un peu de matrone, comme ça, très très bonne actrice. Hein, Shelley Winters, une immense carrière. Voilà. Et aussi elle fut une des dirigeantes de l'Actors Studio. Hein, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est là que le casting, c'est entièrement un casting Actors Studio, en fait. Ce qui explique d'ailleurs la qualité du casting et la qualité de l'interprétation. Et elle va être obligée de s'enfuir. Elle vit avec son mari et ses quatre enfants dans un coin paumé des États-Unis. Et elle est obligée de s'enfuir parce que, Don Stroud, là, il est accusé de viol, en fait. Hein. Il a violé une jeune femme, dont le shérif à leur trousse, donc il décide de changer d'état et va donc commencer une odyssée sanglante où elle va aller, pour faire simple, hein, de ville en ville, et puis cambrioler des banques. Ses enfants vont s'adonner à des pratiques plus ou moins autorisées par la loi, des actions de violence, parfois même des actions de violence gratuite, parce que Don Stroud, qui est le personnage un des plus intéressants, moi, je trouve, dans ses enfants, parce qu'il n'est pas caricatural, en fait, a des accès de violence très, très étonnants. En cela, il est assez proche de sa mère, d'ailleurs. Et... alors, chose étonnante, je ne sais pas si tu savais, Damien, mais que ce film a failli être totalement interdit en France. En fait, la commission de censure avait statué sur le fait qu'il avait une ambiance traumatisante, morbide et sordide. Et elle avait refusé son visa d'exploitation. Ça me paraît très étonnant, parce qu'on est en 70, donc on commence à en voir des trucs assez costauds dans les années 70. Roger Corman va alors écrire un courrier très connu, une lettre ouverte aux censeurs français, en fait, qui sera publiée le 7 octobre 70 dans la revue Combat. Parce qu'il va qualifier d'ailleurs cette mesure de fasciste, l'interdiction de son film. Et il va signer un texte assez passionnant, dans lequel il explique qu'il y a une grande véracité historique dans ce qu'il raconte, et que pour lui, son film, il mérite pas le sort qu'on lui réserve. Le film va longtemps être compliqué à voir en France, puis après il sera disponible en VHS, tout ça, mais c'est un film en plus qui a une histoire particulière avec la France, ce film là donc, Bloody Mama de Roger Corman, qui sort chez ESC, mon cher Damien.
Il a vraiment étudié pour suivre la vie de Ma Barker, ou c'était juste sa justification?
Le film a même été tourné dans les lieux réels, en fait, de l'action, ou quasi, ce qu'il a pu, parce qu'à la base, le studio voulait lui imposer de tourner en studio. Lui, il trouvait que ça n'avait pas de sens. Donc, il a été sur les lieux réels. Il s'est autorisé, en fait, des libertés lors du final. Deux libertés, parce qu'il faut savoir que dans le final, c'est un peu fort à la mot. C'est-à-dire que Ma Barker et son fils le plus violent qui, dans la vraie vie, qui ont livré un combat contre les policiers qui s'est terminé en... Voilà, ils se sont fait cribler de balles. Dans le film, il y a tous les enfants dans la maison. Voilà. En vrai, il n'y avait pas tous les enfants dans la maison de Ma Barker quand il y a eu la fusillade. Et autre liberté qu'il a pris avec l'histoire, c'est que c'est ce qu'on apprend dans les bonus de l'édition ESC. Quand il a tourné la scène finale, on voit qu'il y a du public qui vient assister à la scène finale. Et en fait, dans la vraie vie, le public n'est pas venu assister à la scène finale. Ce qui s'est passé, c'est comme il tournait en décor réel, ils ont commencé à voir des gens arriver. Et Corman a suspendu le tournage. Et il a dit à un de ses assistants, va mettre, parce que les gens sont habillés de manière très neutre. Donc ils pourraient très bien sortir des années 30. Donc va prendre quelques vieilles voitures qu'on a là. Tu leur dis d'arriver dans une vieille voiture et tout. Et puis on va les filmer. Ils pourront continuer à regarder le tournage. Et donc du coup, on voit, alors, ça rajoute en plus une ambiance très singulière à cette scène. On voit le public qui vient un peu comme on vient voir du sang, comme on voit au jeu du cirque, comme on allait voir les gens qui se faisaient guillotiner aussi, qui étaient condamnés à mort. Et on voit les gens qui sont là, mais les gens qui sont là, en fait, sont des monsieur et madame tout le monde. C'est pas du tout des figurants, c'était pas du tout prévu. Et c'est une entorse qu'a fait Corman, mais moi je trouve qu'il a eu raison, parce que ça donne un aspect très singulier à cette scène que je trouve très réussie. Tout en sachant qu'on est dans le domaine de l'IP, des petites productions, des films assez fauchés. Et alors pour moi, c'est pas du tout le meilleur film de Corman. Par contre, je préfère évidemment ces adaptations d'Edgar Poe, La tombe de Lee J. Yacht, qui sont magnifiques au niveau pictural et qui ont bien saisi l'essence du travail d'Edgar Poe. Là, on est sur autre chose. Oh, c'était des films tournés en très peu de temps et tout, hein, donc faut pas non plus. Mais moi, j'aime beaucoup Ma Barker avec Bloody Mama. Que d'ailleurs le film va avoir un tel succès qu'il va générer un sous-genre et il va en faire d'autres. Il va y avoir la série des Super Nanas avec Angie Dickinson par exemple. Il va en produire et en faire d'autres. Il y a même d'autres réals qui vont en faire avec à chaque fois des femmes chefs de gang. Voilà, où là on sera évidemment très éloigné de la réalité.
Écoutez Culture Prohibée.
Alors, on a déjà chroniqué un film sur Ma Barker qui était lu en noir et blanc. Là, on change, déjà parce qu'on a de la couleur. Mais surtout, alors comme tu l'as dit, les productions Roger Corman, il y a peu de thunes habituellement. Et je trouve qu'au début du film, ça se voit... peut-être qu'il avait de l'argent, mais ça se voit par le choix de narration qu'il choisit de faire, c'est-à-dire que on va avoir un montage qui va expliquer la situation géopolitique du pays, on va avoir un instant sur Ma Barker et sa famille, ensuite pour changer de scène on va revoir ce truc, et au tout début quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, il a beaucoup d'acteurs quand même qui sont impressionnants, est-ce qu'ils ont pris tout le budget comme aujourd'hui? Non, c'est pas du tout ça, c'est parce que le début du film sert à nous poser assez bien l'ambiance, et je trouve que dans la deuxième partie où ils essayent un peu moins de coller à tout ce qui va être, on va dire, fait public, mais plus ce qui va être relationnel, c'est-à-dire la façon dont la famille fonctionne entre elles, le film à ce moment-là, pour moi, il va devenir extrêmement intéressant. Déjà parce que tous les personnages en soi sont un peu étranges, que ce soit Ma Barker, son fils aîné Herman, son plus petit. Chaque membre de la famille a en fait un détail qui lui colle très bien à la peau. Robert De Niro, il a ce côté un peu junkie, un peu à la Sean Penn dans le lycée Richmond, mais en beaucoup moins drôle, en beaucoup plus inquiétant. Et en fait, tous ces personnages qui sont un peu étranges vont mener à des situations étranges et un peu illogiques, mais c'est des scènes qui, avec des personnages qui sont sérieux, en fait, finissent par devenir sombres. Par exemple, le segment où De Niro rencontre Rembrandt, qui est en train de se baigner au bord du lac.
Qui est une femme, hein, je précise, parce que quand on s'appelle Rembrandt comme le peintre, c'est assez étonnant. Ouais. Pourquoi ce choix de nom, d'ailleurs, c'est étonnant.
Oui, au départ, moi, je me suis dit qu'elle se... Alors, j'étais pas sûr que c'était vraiment son prénom. Je me dis, elle arrive vers lui, il dit qu'il est poète, et elle commence à dire qu'elle a un nom de peinture, et les deux partent... pour faire l'amour ensemble, jusqu'à ce qu'il lui dise en fait que... Enfin, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'elle a un toxico, et en fait, la scène change du tout au tout, et tout le segment sur Rembrandt est assez sombre et met en avant les problèmes qu'il y a au cœur de la famille.
C'est un viol, hein, enfin, ni plus ni moins, en fait, en vérité.
Mais c'est pas juste l'agression sexuelle, c'est derrière qu'il y a un meurtre, que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul frère qui avait tué, et que là, en fait, ils essayent de trouver en fait, qui va tuer, parce que le frère ne veut pas retuer. Mais il y a plein de personnages, plein de segments, en fait. Au tout début, on a par exemple la scène en prison qui va commencer à poser les bases d'un autre personnage qui masse et lui aussi au final se fait agresser. Et tout à la fin, on va avoir le kidnapping qui va vraiment mettre en avant les dissensions et qui va tirer en fait. Au départ, quand on a le film, vu qu'elle lave ses fils et qu'ils sont tous au même endroit, on sent que t'as une unité de lieu et aussi une unité de famille qui est mise en place. C'est pour ça que le père est un peu à l'extérieur un peu plus tard. Et en fait, plus le film avance, plus on va tirer sur ces fils qui créent leur réaction pour voir jusqu'à où ça va céder. Et c'est vraiment dans ces moments où on met la famille vraiment en avant, pas dans l'action, pas dans les cambriolages qu'ils font au tout début, mais vraiment quand on les met juste entre eux, où on sent tout un malaise qui se crée, et ça rend le film... ça crée un truc. Le film parvient à créer une ambiance qui, au fur et à mesure qu'il avance, le rend de plus en plus intéressant. Est-ce que j'aime beaucoup, par exemple, à la toute fin, quand il y a une sorte de renversement de pouvoir au sein de la famille, les torts sont beaucoup mis sur la mère, et en même temps, c'est elle qui a, au début, pris les décisions et porté la famille. Mais en soi, quand on regarde tout le parcours qu'ils ont parcouru, ils sont tous problématiques. Et j'aime beaucoup la toute fin du film, c'est-à-dire que ça finit un peu sur un freeze frame, un peu ce qu'on avait dans les films, les westerns, dans certains films, on terminait sur un massacre, et au lieu de montrer toutes les balles qui partaient et tous les gens qui mouraient, on faisait juste une freeze frame avec les gens qui étaient déjà morts, et généralement le bruit des balles derrière. Et sa fin, donc c'est un freeze frame, et en plus, son générique, c'est sur un timbre qui est pour la fête des mères. Et la fin a un côté extrêmement cynique que j'apprécie énormément.
Il faut savoir aussi que Corman a parfois été même débordé par ses acteurs. C'est vrai qu'il a un scénario... Alors tu l'as dit, il a fait pas mal de recherches, donc il y a pas mal d'images d'archives, tout ça, qui donne vraiment une grosse impression de véracité au film. Et puis il y a... Parce que c'est un vrai film d'horreur en vérité. Mais l'horreur... En fait, une horreur humainement parlant, quoi. C'est vraiment un film d'horreur. Et tout ce que l'humanité peut avoir de plus horrible. Parce que ces personnages-là, ils peuvent être tous aussi attachants qu'ignobles. C'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'on a des personnages à la fois attachants et à la fois ignobles. Donc, on a des moments aussi, tu l'as dit toi-même, très étranges, très singuliers, très étonnés. Il y a des ruptures de ton dans le film, à un moment... Bon, il y a aussi un personnage féminin qui va venir dans le film, qui va devenir la compagne de Don Stroud et qui va vraiment gêner la mère. On sent qu'elle veut avoir une relation exclusive avec ses enfants quand même. On sent que c'est compliqué, qu'elle a du mal à les partager, ses enfants, qu'elle les couve un peu. Ce qu'on voit dès le début d'ailleurs, ce qui fait suite à la scène du bain collectif. Et puis il y a des scènes très étonnantes. Prends la scène de il y a un des enfants qui meurt, de la réaction qu'elle a à la mort d'un de ses enfants. Alors il faut savoir, parce que ça on l'apprend dans les bonus quand même, que Shelley Winters, acteur studio, c'est grand malade, elle a été à un enterrement juste avant pour se mettre en condition. Elle a retenu ses larmes
Et elle est arrivée, elle a fait exploser toute sa peine dans la scène. Et Corman, je l'ai vu arriver en courant. Bon, j'ai dit, on filme. C'était pas le texte, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et bon, voilà, il a gardé la prise. Parce que c'est pour ça que c'est filmé de loin et tout, parce qu'ils ont été un peu pris au dépourvu. Et voilà, c'est juste totalement étonnant. Et chez les Winter, c'est extraordinaire. Enfin, on sait que c'est une super actrice. Hein. Donc, et effectivement, c'est le haut du panier de la série B. Et c'est clairement un film qui s'inscrit en fait dans une réflexion quand même très importante, parce que bon, c'est aussi une mère incestueuse quand même, hein. Donc mais c'est aussi un film presque freudien, parce que Freud s'intéresse quand même, Corman, on le voit dans différents films, et en particulier l'absence du père. Et là, il y a l'absence du père, c'est-à-dire que le père, il est là, mais il est absent, enfin, il fait figuration, quoi, voilà. Elle l'aime bien, mais c'est un homme soumis, en fait, et qu'elle quitte d'ailleurs pour emmener ses enfants au début, mais on voit bien quel genre d'éducation et de qu'on puisse recevoir ses enfants. Et puis en plus, c'est dit plusieurs fois dans le film. C'est-à-dire que c'est la période, c'est la crise. Hein, voilà, on est juste après 29, tout ça, et on est en plein dans la crise même. C'est la Grande Dépression, et il y a cette volonté de qu'est-ce qu'elle est, Ma Barker, en fait. C'est des ultra-capitalistes, quoi. C'était des dirigeants d'entreprise. Ils le disent, hein, dans le film. Hein, un tel fait de l'argent, nous aussi on va faire de l'argent, on a besoin d'argent, donc ils vont braquer, ils vont... voilà. Mais ils font ça toi tu vas acheter une baguette dans une boulangerie, quoi. C'est assez étonnant, et en fait ce qu'on voit, c'est cette sorte de violence gratuite, absolue, de laquelle on réchappe pas, qui est omniprésente, qui est diffuse. Il y a un personnage très intéressant, qui est le personnage de Bruce Dern, je crois que son premier rôle au cinéma, ou l'un de ses tout premiers, qui est un personnage qui fait un des enfants de Ma Barker, en fait, son jouet, c'est sa petite chose sexuelle, quoi, voilà, qui frappe, qui viole pendant qu'ils sont en prison, et pourtant il fait partie de la famille après, quoi, il en fait partie, alors que on peut vraiment penser que Shelley Winters est totalement au courant de ce qui se passe. Donc c'est assez étonnant, enfin le personnage de Shelley Winters, je veux dire Ma Barker. Donc c'est assez étonnant, c'est effectivement un film assez étonnant, qui vient dans le sillon du Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Et donc ça s'appelle Ma Barker, c'est disponible chez ESC. On ne l'a jamais eu dans de si belles conditions, la copie est magnifique, enfin c'est une très belle édition. Donc on vous le conseille vivement. Alors on va quitter ESC pour aller chez BQHL. Alors chez BQHL, ils nous sortent en 1980 un film là aussi, qui est une sorte de queue de comète, hein, d'un genre, d'un sous-genre. Alors on vous a déjà parlé du Vigilante. Hein, si vous n'en savez pas assez sur le Vigilante, achetez le livre, enfin je crois qu'il est épuisé, mais essayez de vous procurer le livre de Yael Sadat, qui est un livre extraordinaire. Le livre de Yael Sadat, c'est un des meilleurs livres de cinéma qui avait été écrit l'année où il est sorti, hein. Pour moi c'était un des 2-3 meilleurs livres de cinéma que j'avais lu. C'était un livre extraordinaire qui a été couvert de prix d'ailleurs, hein, et qui est passionnant sur le phénomène du Vigilante.
Il était étranger. Il était seul.
Et mes chics de passage ici. Je ne m'occupe pas des autres.
Et toi aussi, Tommy, tu es concerné?
Pas du tout.
Il ne voulait pas faire partie de leur monde.
Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Que je me fasse buter au coin de la rue?
Ne cherche pas d'excuses, ça n'est pas la peine. Tu as toujours voulu partir d'ici.
Il ne voulait pas être mêlé à leurs problèmes.
Ah non, c'était agréable de vivre ici, dans ce quartier. C'était le bon temps. Puis tout ça a changé.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Cinéma US.
Mais il devint l'un des leurs, et leurs problèmes devinrent les siens.
Tu vas mourir. T'es condamné.
Plus il désirait partir, et plus il reconnaissait qu'il devait rester.
Hé ! Arrêtez-vous !
Mal à personne.
«
Ils avaient tous peur. Tous, sauf un. Hé hey! Alors t'es fini? Tu vas aller dire à tes petites copines d'en face que je vais te mettre mon poing sur la gueule si tu me laisses pas tranquille. J'aime pas qu'on m'emmerde. Ils ont eu peur jusqu'à ce qu'il leur a appris à les défier. Yann Michael Vincent, Teresa Saldana et Art Carney.
Ce film dont on va parler, là, c'est Les Massacreurs de Brooklyn. C'est un film de 1980. C'est un film de John Flynn. Alors, John Flynn, pas n'importe qui, quand même. Immense metteur en scène qui a démarré sa carrière en étant promis à, je veux dire, cet enfant chéri un peu du nouvel Hollywood. Enfin, c'est ce qu'on pensait, en tout cas. Mais en fait, c'est un enfant maudit du nouvel Hollywood. Ça aurait pu être un enfant chéri, mais ça va être un enfant maudit du nouvel Hollywood. Il va d'abord faire un polar, enfin, il fait un polar extraordinaire qui s'appelle Échec à l'organisation. Je pense que vous connaissez tous, qui est un polar extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une très belle édition chez Whiteside. Un polar tendu, tendu comme l'élastique d'un slip, comme dirait l'autre. Voilà, un polar typique de son époque, avec un montage au couteau, vraiment excellent. Il va faire un autre film excellent des années plus tard avec James Woods et Brian Dennehy qui s'appelle Pacte avec un tueur. Alors là, c'est pareil, qu'on vous recommande vivement, qui est un film très 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 malaisant sur une relation entre un écrivain et... Enfin bon, bref, on vous en dit pas plus. Alors plus léger, il va faire Haute sécurité avec Stallone, qui est quand même un chouette film de prison malgré ses invraisemblances. Et puis il va signer le meilleur film avec Steven Seagal, qui est Justice sauvage, qui malgré tous ses défauts... enfin, regardons le reste de la filmo de Steven Seagal, est quand même un sacré film. Après, le reste de sa carrière était oublié, Brain Scan, tout ça, parce qu'il ne va jamais retrouver... En fait, il est l'auteur d'un film maudit. Il est l'auteur d'un film maudit, un immense film qui est aussi un film de vigilance. C'est pour ça que c'était intéressant de parler de ça, qui est un film qui s'appelle Rolling Thunder, sur un scénario de Paul Schrader, Taxi Driver, hein, voilà, je vous fais pas de dessin, puis qui est aussi un réalisateur intéressant. Et c'est un film incroyable qui, c'est pareil, a bénéficié d'une très belle édition. On en avait parlé dans l'émission, on avait fait une spéciale John Flynn, hein, de toute façon, parce que nous, on est fans de John Flynn, réalisateur méconnu qui mérite d'être réévalué. Il y avait une rétrospective à la Cinémathèque, d'ailleurs, John Flynn. Hein. Et il se trouve qu'en 80, John Flynn, il accepte une commande qui s'appelle Les Massacreurs de Brooklyn, qui est un film qui met en vedette un acteur qui était promis un bel avenir, qui lui aussi a tourné pour un enfant maudit du nouvel Hollywood, hein, pour John Milius. Il tient un des rôles principaux, il est surfeur dans le meilleur film de John Milius, Big Wednesday. Cet acteur, c'est Yann Michael Vincent. D'ailleurs, il y a Marc Toulek qui consacre un livret dans cette édition BQHL qui consacre un livret entier à la carrière de Yann Michael Vincent. Ceux qui avaient aimé mon article pour Prime Cut numéro 1 dans lequel je revenais, mais avec un nombre de signes plus limité, sur la carrière et la destinée d'Yann Michael Vincent, là vous en saurez plus sur Yann Michael Vincent puisque c'est beaucoup plus développé. Le livret fait une trentaine de pages. Qu'est-ce que ça raconte, Les Massacreurs de Brooklyn? Bah, c'est l'histoire d'un marin, Yann Michael Vincent, qui a cassé la gueule à un supérieur, voilà, parce qu'il a un caractère de cochon. En même temps, il est présenté comme un type assez juste, en fait, et qui veut pas d'histoire. Voilà. Il est obligé d'attendre, parce que le syndicat va lui trouver un nouveau voyage en Amérique du Sud. Mais il est obligé d'attendre. Alors, il trouve un logement... pas du tout à Brooklyn, hein. Ça s'appelle Les Massacreurs de Brooklyn. Il n'y a pas de massacreur, il n'y a pas de Brooklyn. Hein. Cherchez pas. Le titre, en plus anglais, est vachement bien. Il aurait pu être transposé en français, puisque le titre, c'est Défiance. Voilà. Et il se retrouve dans un quartier de New York, malfamé, hein, avec une jolie voisine, hein, qui est jouée par Teresa Saldana. Qui est une très belle femme, qui vient des quartiers riches, qui a connu le déclassement social. Ça, c'est intéressant dans le film. Et puis, c'est un quartier où il y a le vieil épicier juif, la communauté italienne, qui est incarnée par Danny Aiello, où il y a un esprit village. Hein, voilà. En fait, c'est un New York qui n'existe plus. Ça a réellement existé, ce type de quartier à New York, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et lui, il se fond dans ce milieu-là, tout en écoutant toute la journée des disques,
des disques vinyles pour apprendre l'espagnol. Et parallèlement, il se lie d'amitié avec un petit gamin latino, il doit avoir une petite dizaine d'années, qui traîne toujours avec un vieux boxeur devenu un peu bringzing à force d'avoir pris des coups dans la tronche, mais qui a gardé sa carrure très impressionnante. Et dans ce quartier-là, il y a une bande, typique. Alors, il a vu les Warriors, hein, ils ont vu les Warriors de Walter Hill. C'est-à-dire que c'est un truc complètement surréaliste, puisque c'est une bande multiethnique déjà, qui est un truc qui n'existait pas du tout aux États-Unis, pas aujourd'hui, mais encore moins à cette période-là, voilà, où les conflits étaient encore plus prégnants entre les communautés. Et fort que ça se discute, mais en tout cas, les gangs sont globalement communautaristes, hein, voilà, ou présentés comme tels par de nombreux chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Et là, il se trouve qu'évidemment, ça va pas bien se passer, quoi. Notre ami Ian Michael Vincent, il va pas du tout supporter ce qui se passe dans ce quartier. Et il va décider de se barrer, hein, mais laisser derrière lui des gens qui sont devenus ses amis, ça, c'est compliqué pour lui à envisager. Et puis il va se passer un événement qui va l'amener à revenir, et puis à faire ce qu'on attendait quand même, parce qu'il met un long temps avant de réagir, hein. Il y a bien une heure de film avant qu'il y ait... Bon, il se passe plein de trucs, hein, mais en tout cas, lui, il ne réagit pas avant une heure de film, quoi, voilà. Et il revient, et là, Là, c'est la grosse bagarre du film. Et le film est vachement intéressant, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que John Flynn... Il était, pour lui, c'était une commande, ou parce qu'il a été pris par le temps, mais il a une manière de filmer la ville, de montrer la vie de ce quartier, qui fait que ça ne fait pas un vigilante comme les autres. C'est-à-dire que, par exemple, les bagarres ressemblent vraiment à des bagarres de rue, quoi. Quand les mecs se battent, ils ne font pas des coups de pied à 360 degrés, c'est pas des rois de la... Non, c'est des petits salopards qui planquent un couteau quelque part pour te planter, qui vont prendre le bout de bois qui traîne, ils n'ont pas une force surhumaine. Même Ian Michael Vincent, la première fois qu'il les rencontre, il se prend une tôle parce que les super-héros, ça n'existe pas, quoi. Et à la fin, s'il n'a pas d'aide, il va se prendre une tôle. Hein. Tout seul, il ne peut pas les battre. Hein. Et puis en plus, les personnages ne sont pas caricaturaux. Par exemple, ce chef de gang, qui est un peu surréaliste, qui a presque un côté queer, d'ailleurs, hein, dans son look, on découvre qu'il a un père malheureux et qu'il a vécu une sorte de déclassement aussi. Voilà, donc... et qu'en fin de compte, lui... C'est le moyen qu'il a trouvé pour gagner de l'argent. Et puis c'est un film qui évite tous les poncifs du genre. C'est-à-dire que le côté super-héroïque, le côté... les viols, il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de scène crapoteuse de ce genre dans le film. Ça n'existe pas. Ce n'est pas à l'écran. Il évite tous ces clichés-là un peu. Et il fait un film, en fait, plutôt assez réaliste. Qu'aurait très bien pu se passer. Même les flics ont dit on a besoin de vous, vous êtes jamais là, mais en fin de compte, dès qu'ils peuvent, ils sont là. C'est juste que il y a pas de plainte, il y a pas de, voilà, donc ils ont pas de quoi intervenir, mais quand il y a à intervenir, ils interviennent. Rien n'est caricatural dans ce film, c'est assez étonnant. C'est pas un grand film, hein, c'est pas le grand film de John Flynn, mais c'est un film très étonnant, très singulier. Alors c'est un chant du cygne d'un genre. Alors après, James Wan va le ressusciter le temps d'un film de manière assez brillante, d'ailleurs, hein, par Death Sentence. Mais c'est où il le traitera d'ailleurs de manière intéressante en comparant cette la contamination. D'un cancer, comme un cancer, en fait, cette contamination, ce désir de vengeance. Et là, on a quand même un film, mon cher Damien, assez singulier, par un traitement, par un moment qui est presque documentaire, très étrange.
T'as raison, Jérôme, dans la façon dont il filme la ville, c'est assez particulier. En fait, au moment où notre personnage s'installe, on va filmer un peu la fenêtre par laquelle il est, finalement l'espace dans lequel il va vivre. Juste à côté, il y a un garçon dans lequel on va filmer l'espace rapidement où il est en train de vivre. Juste au-dessus, il y a son love interest qui va arriver, qu'on va filmer. Et en fait, avec ces petits plans, en fait, c'est... tous ces personnages qui habitent un lieu, quand tu les regroupes, vu que la caméra ne fait pas 3000 mètres pour indiquer tous les personnages, elles sont juste côte à côte, il arrive à nous instaurer une petite communauté dès le départ. Alors, on a un personnage qui est assez particulier, parce que c'est un marin, donc c'est quelqu'un qui la vit à terre, c'est pas son truc, c'est quelqu'un qui change souvent d'endroit, donc s'attacher aux gens, c'est pas ce qu'il fait, en fait. Lui, sa vie, c'est de barouder sur les océans du monde entier, et... En effet, au départ, quand il arrive, on lui dit « Oui, il ne faut pas que tu affrontes ce gang. » Et lui, il répond « Oui, mais je ne vais pas affronter ce gang. En fait, j'en ai rien à faire. » Et la première fois qu'il le croise, c'est juste eux qui jettent son sac devant lui parce qu'il a monté l'escalier en le laissant en bas. Ils le jettent. Ils échangent un regard. Sans plus, ils partent. La deuxième fois qu'il les croise, il part juste acheter quelque chose, passer un appel dans l'épicerie du coin. Et pareil, ils rentrent, ils prennent des trucs, ils repartent. Et le vendeur lui fait « Ouais, tu dois pas te mêler à eux, ils sont dangereux et tout. » Il répond « Oui, mais je vais pas me mêler à eux. » Et au final, le moment où il réagit, c'est juste derrière où ils se mettent à faire des bruits de poule alors qu'ils marchent dans la rue. Il leur dit juste « Bah, venez pas m'enquiquiner. » Il part et le gang se dit « Oui, on va l'agresser, ce type-là. » Et à partir de ce moment-là, il se fait tabasser. Il va essayer de les esquiver, mais vu que le gosse va être attaqué, il va quand même devoir s'impliquer, ce qu'il va pas faire tout de suite. Enfin, il va s'impliquer, il va défendre le gosse. Il va le protéger, il va quand même protéger son ami, mais il va pas le faire tout de suite. C'est vraiment tout à la fin où le fait qu'il s'est opposé une fois, ça va donner du courage aux autres qui ont essayé au fur et à mesure de prendre pas à pas dessus. Mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir attendre que d'autres personnes soient agressées, voire soient tuées, pour que le quartier finisse par agir. Et c'est pour ça que le film prend énormément son temps, parce qu'il part pas du principe que on va monter une équipe pour aller affronter le gang d'en face et les arrêter. On va pas mobiliser tout le monde d'un coup. C'est quelque chose qui prend du temps. Alors le courage est contagieux, mais il n'est pas immédiat.
On rappelle les Massacreurs de Brooklyn, disponibles chez BQHL. Tell him your secrets, pull the shade. You clean his claws and watch him bleed. He may be rich, but he ain't got no guarantees. It's bread and butter and a box to keep you warm. Come here, my sister, tell your man just where you've gone, you say. Hell, I ain't looking for no answers. Get it straight, I'll make it clear. I'll play all night for a 10-spot and a beer. Sleep with the hunted, face myself out on the square. This fox ain't moving when the night out there.
Écoutez Culture Prohibée. Romeo.
Puisqu'on parlait de courage, on va parler d'un film qui adapte une autrice assez courageuse, hein, quelqu'un qui écrivait aussi des romans noirs d'ailleurs sous pseudo, et qui a inspiré par exemple avec son livre Foxfire, le grand livre féministe sur les bandes de filles aux États-Unis, qui a inspiré un film à Laurent Canté, et qui a eu le prix Femina étranger en 2004 pour Les Chutes, et qui a fait aussi un très bonne bio de Marilyn qui s'appelle Blonde, qui est vraiment très très bien. Et cette autrice, c'est Joyce Carol Oates. Et Joyce Carol Oates, elle a écrit Smooth Talk, qui est adapté en 85 par Joyce Chopra, une autre Joyce. Hein, voilà. Et Joyce Chopra, d'ailleurs, qui va quasiment travailler qu'à la télévision. Ça, c'est son premier film. Donc Smooth Talk, là, qui est sorti chez Carlotta Film, c'est son tout premier film. C'est un film de 85. Elle fera un autre film en 89 qui s'appelle The Lemon Sisters, qui raconte l'histoire d'un groupe de filles qui chantent dans les bars, mais qui va être un gros échec. Que j'ai pas vu, hein, mais j'ai envie de voir du coup, comme j'ai vu Smooth Talk. Smooth Talk de Joyce Chopra réussit à capter, en tout cas du peu que j'en ai lu, en tout cas, cette subtilité qu'a Joyce Carol Oates dans la description des sentiments humains et surtout des sentiments qui ne vont jamais. En fait, c'est assez réaliste, mais qui vont jamais dans le sens de la bien-pensance, du cliché, voilà. Et Smooth Talk, c'est un drôle de film, en fin de compte, parce que c'est un film. Qui a un côté au début très teenage movie, hein, et qui bascule dans quelque chose de très effrayant, en fait. C'est un film presque d'horreur à la fin, tout en n'en étant pas un, hein, d'ailleurs. Hein, parce que c'est l'histoire de Connie Wyatt, qui a 15 ans. Alors, Connie Wyatt, qui est jouée par Laura Dern, qui est toute jeune, hein, et qu'elle passe l'été en Californie, dans la maison de campagne familiale avec ses parents, Catherine et Harry, et sa sœur June. June, qui est sa vraie confidente, en fait, hein, une sorte de son miroir plus jeune, quoi, voilà. Et bon, ce qu'elle fait de son temps libre, elle va au centre commercial avec ses copines, et elle flirte avec les garçons. Voilà, c'est ses principales occupations. Et en fait, ce qu'elle veut, cette jeune fille, c'est voir le grand méchant loup, quoi. Voilà. Elle veut connaître l'amour physique, l'amour charnel, tout en ayant peur en même temps. Et tout ça, je trouve que c'est particulièrement bien décrit dans le film, dans le livre aussi, mais dans le film. En fait, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on voit une adolescente qui s'ennuie. Et ça, c'est un truc typique de l'adolescence, parce qu'en vieillissant, l'ennui, on se met à l'aimer, l'ennui, à le chérir, à se dire, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir... En fait, l'ennui n'existe pas vraiment. L'ennui... S'ennuyer, c'est vachement intéressant, en vérité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais elle s'ennuie comme une adolescente peut s'ennuyer, mais c'est pas plus vraiment une adolescente. Elle comprend bien que son corps qui a changé, ses formes, commence à intéresser les adultes, que sa sensualité de jeune fille, de fleur en train d'éclore, de jeune femme plutôt, commence à attirer les regards masculins.
écoutez Culture Prohibée spécial Cinéma X.
You know, I can't wait till I'm old enough to drive.
C'est l'histoire d'une adolescente qui va découvrir la sexualité. Alors, au début, avec un garçon romantique, avec une expérience déceptive. Enfin, tout est un peu déceptif à chaque fois. Et puis, elle va rencontrer ce fameux Arnold Friend, qui est interprété par Treat Williams, qui est excellent, qui est vraiment flippant, et qui, un jour, se pointe chez elle. Et puis, pendant que les parents ne sont pas là, la famille est partie au bord du lac et lui dit « I'm watching you ». Alors, il sait tout de ses parents, de son train de vie, de ses... Et, alors, c'est suggéré, mais ils sont séparés par une porte, mais on sent qu'elle est... Alors, la photo du film est très chaude et tout ça. Enfin, il y a une vraie sensualité qui se dégage de ce film. Et on sent qu'elle a à la fois peur de lui et aussi envie de coucher avec lui. Et puis, il va se passer ce qui va se passer. C'est ce que les Américains appellent un coming of age. Voilà. Et ça donne un film très étonnant. D'ailleurs, parce qu'au final, en fait, en vérité, est-ce qu'elle n'a pas fantasmé cette dernière partie du film ? C'est une clé qui n'est jamais donnée. Hein, parce qu'en fait, elle a peut-être totalement fantasmé. Ce Arnold Friend, elle l'a déjà rencontré dans le film avant, on le sait. Mais là, ce qui se passe, après, c'est un côté surréaliste, quasi onirique. En fait, hein. Très très étrange. Et celui qui paraissait être un jeune homme d'âge mûr qui maîtrisait bien ses pulsions, là apparaît plus comme un prédateur étrange, presque une sorte de vampire qui vient la prendre comme ça. Et ça donne un film vraiment singulier qui, pour moi, en plus, est vachement passionnant parce qu'il est au cœur de thématiques qui sont dans les années 2010. Dernière partie des années 2010 et là, les années 2020, qui sont au centre de préoccupations intellectuelles des mouvements féministes. Enfin, ce film-là, pour moi, il est encore plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était en 85.
Smooth Talk de Joss Chopra, c'est un film sur lequel je suis un peu partagé. Parce que, pour moi, la force du film, c'est son final. Alors, pour moi, pour ma vision personnelle, parce que c'est un film qui est très intéressant, notamment parce qu'on commence par un groupe de filles et justement on a une mise en avant des interactions à l'intérieur de ce groupe de filles qui, en effet, pour passer le temps, partent, alors mentent à leurs parents en disant qu'elles vont au centre commercial, mais en vérité vont à la plage. Derrière, peuvent éventuellement vraiment aller au centre commercial, y compris aller voir des films. On a aussi une interaction entre Laura Dern et sa mère qui est très intéressante, où elles sont incapables de réellement se parler. On a l'impression qu'ils n'ont jamais la même discussion l'une et l'autre. Il y en a toujours une qui comprend mal l'autre, du coup elle surréagit. C'est vraiment... les discussions entre les personnages sont un peu tous brisées, sauf avec ses amis où elle arrive à parler, mais elle parle au final... surtout des activités qu'on va faire. En fait, le smooth talk, à mon avis, c'est justement la discussion de fin qu'on a entre Laura Dern et Arnold Friend, qui est joué par un mystique et terrifiant Treat Williams, qui, dès qu'il apparaît à toute fin, est une sorte de trou noir qui aspire toute l'ambiance du film. Elle change de vue du tout au tout, parce que comme tu l'as dit, Jérôme, il débarque devant chez elle. Le film fait environ 1h30 et la dernière séquence fait 30-20 minutes. Et c'est un changement de ton radical. Toute l'ambiance devient glaçante. Alors, à plusieurs reprises, elle ment pour aller dans un bar avec des garçons et flirter un peu. Et on pourrait se dire qu'il va y avoir un truc qui va mal se passer. Mais au final, elle s'en sort toujours un petit peu. Sa copine qui l'accompagne, elle se fait rattraper par ses parents, pas elle, qui peut continuer à mener cette double vie. Et vraiment, à la fin, quand il se pointe devant sa porte, ça change, parce que finalement, cette vie indirectement de mensonge qu'elle cachait à sa famille, c'est quelque chose qui la rattrape. Et on se retrouve dans une situation où ce mec est devant chez elle, il dit qu'il est intéressé par elle, et elle dit « oui, non, mais tu devrais partir car mes parents vont revenir », et il répond « non, non, tes parents sont partis au barbecue, je sais qu'ils ne reviendront pas ». Et il sait énormément de choses, et il y a des détails qu'on commence à retrouver. Par exemple, au tout début du film, elle vient de flirter avec un garçon, et son ami lui demande « oui, il y a un garçon qui m'a demandé de tes nouvelles », et elle dit juste « ah oui, il ressemblait à quoi ?» Elle pense que c'est la personne qui a flirté au début. Sauf que quand on prend du recul, on se dit qu'elle n'a jamais décrit qui était la personne qui était venue la voir, qui était venue lui poser ses questions. Et on commence à comprendre que ce Arnold peut être plus dangereux qu'il en a l'air. Alors, c'est vraiment un jeu de séduction et de terreur qu'il a, parce qu'il essaye d'être doux avec elle, et à chaque fois il termine en disant viens avec ma voiture, viens, monte dans ma voiture, on va aller faire un tour. Et elle dit oui, mais il faut que je fasse des trucs. Et il dit oui, mais ne t'inquiète pas, viens. C'est vraiment une situation, vraiment la fin, c'est quelque chose qui est qu'il faut voir, parce que ça change de tout le film. Et c'est là où j'ai un problème avec le film, c'est que je trouve que la longue partie qui pose les interactions, c'est quelque chose duquel je me désintéresse. Mais si on n'a pas toute cette longue partie qui est mise en avant, en fait le final n'a pas autant la force, il n'a pas autant de force que ça, que tout ce moment qui va être inquiétant. Alors c'est un film qui réussit quelque chose, c'est-à-dire que on a une adolescente qui est sur point de devenir femme, qui s'intéresse à l'éveil, son éveil sexuel, mais on va avoir toute une partie justement où quand elle va tomber sur quelqu'un qui va être un peu trop entreprenant, elle va réussir à lui dire non, et elle arrive à voir, à savoir ce qu'elle veut. Et en fait c'est là où la scène de fin est vraiment ambiguë, parce que même si elle va prendre sa décision à la fin, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'elle veut. Et le fait que à la fin on n'ait pas d'image, vu que le cinéma c'est un art où t'es censé montrer, on a juste quelque chose qui est supposé, ça crée tout un flou sur ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un film, c'est compliqué d'en parler, mais qu'il faut vraiment voir, parce que c'est un film sur lequel l'atmosphère joue beaucoup et on ressent énormément. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre la main sur Smooth Talk de Josh Chopra, qui est disponible chez Carlotta Film, pour faire votre avis et voir comment pour vous cette histoire se termine. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my real to real. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get and still feel so alone. Still feel related, like stations in some relay. You're not a hit and run driver, no, no. Racing away. You just picked up a hitcher. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. And slow, now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk and lead me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. Right in the face on the road to Belgeny near my old hometown. He went running through the whisker weed chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes, and those same eyes just like yours under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and numbered doors where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, Coyote, I'd just get off a bogey. You just pick up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. Coffee shop. He's staring a hole in his scrambled legs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and Eagles. And
air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. This flame you put here in this Eskimo, in this hitcher.